Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de donner le coup d'envoi de la semaine en votre compagnie. Un homme à la une de Radio Foot ce lundi, et quel homme, un sélectionneur de premier plan qui reprend du service. Aliou Cissé sur le point d'être adoubé, d'être fait chevalier de la Méditerranée. La légende sénégalaise, le sélectionneur champion d'Afrique, s'apprête à remonter en selle sur le banc de la Libye. Un choix que nous allons décortiquer autour de cette table avec trois experts, trois amoureux, surtout du football africain. Il y a même un lion qui se cache parmi eux. Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Monsieur Hugo.
Et bonjour Franck Simon.
Salut Hugo, bonjour à tous.
Nous prendrons aussi la direction de l'Italie en votre compagnie. Messieurs, nous irons au chevet d'une vieille dame qui va mal. La Juventus Turin, humiliée hier à la maison par l'Atalanta Bergame. Passage en Ligue 1, enfin dans Radio Foot ce lundi. Focus sur un match coaché des tribunes, c'est pas banal. Nice-Lyon, l'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, l'homme qui fait des têtes contre têtes avec les arbitres, a-t-il vraiment été puni? Je vous poserai cette question un brin malicieuse tout à l'heure. Ils opèrent non pas des tribunes, mais dans la régie de Radio Foot. Ils sont précieux. Pierre-Olivier Guérin et le maestro Laurent Salerno aux manettes. Merci à eux. Radio Foot, c'est parti.
Ancien sélectionneur du Sénégal prend désormais les rênes de l'équipe nationale libyenne.
Ancien sélectionneur sénégalais qui devrait s'engager du côté de la Libye.
Un Sénégalais qui danse sur de la musique libyenne. C'est ce qui vient de se passer à l'instant dans le studio de Radio Foot sur RFI, Romangara, qui esquissait quelques pas de danse. Vous êtes très crédible en danseur libyen. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'actualité du football également. Aliou Cissé sur le banc de la Libye. Aliou Cissé, c'est le foot sénégalais personnifié. On l'avait quitté sur un décevant huitième de finale de Cannes il y a un peu plus d'un an. Enfin, décevant. C'est-à-dire que quand on a atteint les sommets, même une performance très honorable peut paraître décevante. Aliou Cissé, c'est le foot sénégalais, capitaine de l'équipe légendaire de 2002, quart de finaliste de la Coupe du Monde. Il est aussi le sélectionneur aux deux Coupes du Monde disputées, avec presque deux huitièmes de finale à la clé, toujours avec le Sénégal. Il est aussi le sélectionneur aux deux finales de Cannes, dont une remportée. C'était début 2022 au Cameroun, la seule et l'unique de l'histoire de son pays. Aliou Cissé, c'est le foot sénégalais, mais c'est désormais le foot libyen qui devrait profiter de son savoir-faire. On attend l'officialisation de ce transfert, de cette arrivée, si je puis dire. C'est pour bientôt. Il est sur le point de s'engager avec les Chevaliers de la Méditerranée, Yoro Mangara. C'est tout naturellement que je me tourne vers vous. Êtes-vous surpris par cette nouvelle aventure? Alors, ça fait quelques jours qu'on sait qu'il va s'engager, mais avez-vous été surpris au moment où vous avez appris la nouvelle?
J'ai été surpris du choix de la Libye pour Aliou Cissé. Quelqu'un qui fait deux finales de Cannes et qui est sorti en huitième de finale de la dernière, avec le plus beau jeu des phases de poule, je me disais qu'il aurait pu rester dans ce quota du football africain ou viser un club de Ligue 1 ou dans un championnat étranger. Mais ce que je ne veux pas qu'il me fasse, je ne veux pas qu'il fasse une carrière à la Amara Traoré, qui avait l'équipe nationale du Sénégal à la CAN de 2012, avec des joueurs comme Moussa Sow, meilleur buteur de la Ligue 1, un joueur comme Momodou Niang, meilleur buteur de l'élan avec Marseille, Demba Papi Cissé, qui se retrouve après au Roya. Et aujourd'hui, après c'est la Escalum, aujourd'hui il est président de la Linguère de Saint-Louis. Parce qu'après, il n'a pas pu rebondir, quoi. Quand on accepte des défis moins importants, on se déclasse. Et après, c'est difficile de rattraper le premier wagon.
Bon, vous avez le mérite de l'honnêteté. Je ne suis pas certain qu'on soit d'accord avec vous à la gauche, à ma gauche, dans ce studio de Radio Foot. Franck Simon, peut-on parler d'un déclassement quand on passe du Sénégal à la Libye? Votre avis?
C'est pas exactement le top 5 ou le top 10 du football africain en termes de sélection. En revanche, bon, je pense que ça a été tout le temps un homme libre. Donc, il était libre de ce choix. Il a été libéré puisqu'on n'a pas voulu, si j'ai bien compris, on n'a pas voulu lui renouveler le contrat de confiance, alors que vous avez énuméré tout ce beau travail qu'il a pu accomplir. Mais vous avez juste cité des lignes, moi, ce que j'appelle des lignes de palmarès, parce qu'il y a toute la partie... visible ou moins visible.
2015-2024, pour les dates, pratiquement.
Ouais, c'est une décennie. Il avait commencé aussi avec une autre génération en tant qu'entraîneur adjoint, il me semble, au niveau...
Hamza Tafal, au niveau des JO.
Des Jeux Olympiques de Londres. Donc, il a aussi révélé énormément de talents. Il a favorisé, en fait, ces gens-là. Aujourd'hui, il prend une autre direction. Mais c'est bien, je trouve. C'est un vrai contre-pied professionnel. Il a envie, sans doute, de continuer dans le boulot de sélectionneur. Peut-être que le fonctionnement lui convient bien. Sauf que, si j'ai bien tout lu, puisque c'est quelqu'un qui est rare, dont la parole est rare, moi, je n'ai pas eu la chance de lui parler beaucoup ces trois dernières années, peut-être une fois en trois ans, il ne va pas faire que l'équipe nationale a avec la Libye. Il aura d'autres fonctions, d'autres prérogatives.
Lesquelles ? Ça
peut, de travailler avec des sélections, les sélections de catégorie d'âge, travailler avec les Olympiques, où il y a une vraie passerelle.
Une sorte un peu de sélectionneur DTN ?
Oui, c'est un peu, ça y ressemble. Et donc, du coup, vous avez du travail tout le temps, et beaucoup de travail. Il n'y a pas qu'une Coupe d'Afrique des Nations ou des éliminatoires de Coupe du Monde à préparer, puisque ça, c'est l'objectif véritable. Peut-être qu'on va en parler ensuite.
Bien sûr.
Mais il y a, un challenge. S'il arrive à valider une qualification pour une CAN en Afrique de l'Est, il peut encore durer et avoir un vrai cycle de travail. C'est ça qui lui correspond. Et je pense qu'il a évalué aussi plein de choses, notamment sur le plan du contexte, hein, du pays, un contexte qui est très particulier.
On va y revenir voilà. Avec vous. Il y a aussi le choix financier. Des chiffres commencent à être publiés et qui montrent une augmentation de son salaire par rapport
Dites-nous.
Au Sénégal.
Des chiffres et des lettres.
Des chiffres et des lettres. Bon, en tout cas, non, mais il y trouve sûrement son compte. C'est un sélectionneur qui, je l'espère, est coté sur le marché.
Aliou
Cissé. Est-ce que vous avez été surpris par son choix, vous, Philippe Doucet ?
Pas tant que ça, dans le sens où on a pensé plus d'une fois que Aliou pourrait partir du Sénégal, par exemple, après la Coupe du Monde 2022. Ça pouvait être un repère intéressant. Et s'il ne l'a pas fait, c'est peut-être malheureusement parce que c'est une des preuves supplémentaires que quand on réussit en Afrique, bah on n'a pas forcément la récompense derrière d'aller en Ligue 1, comme le dit Euro.
On est limité entre guillemets à l'Afrique, ou en tout cas les portes de l'Europe sont fermées.
Non seulement c'est pire que ça, on est plus que limité à l'Afrique parce que vous êtes limité à l'Afrique, mais avoir une grosse sélection africaine, c'est-à-dire un grand pays d'Afrique qui ne fait pas confiance à un entraîneur européen ou local et qui préférerait donc un sélectionneur sénégalais, par exemple, en l'espèce, on n'en trouve pas tellement. Donc finalement, vous vous retrouvez, Rigobert Song va en République centrafricaine, Aliou Cissé va en Libye. Et malheureusement, je ne pense pas qu'ils aient eu un choix immense en se disant oui, non, plutôt ci, plutôt ça. J'ai l'impression que c'est la pré-sélection nationale de son pays est délicate, c'est difficile.
Et en contre-exemple, Eric Schell qui va coacher les Super Eagles.
Justement,
qui lui est entre guillemets promu.
Ça pourrait
être vu comme une promotion.
Ça, c'était une surprise pour le coup.
Justement.
Et là, c'était une surprise.
Moi, je ne suis pas du tout au fait de qui gère les intérêts du sélectionneur Aliou Cissé. Je ne sais pas qui est son agent, mais vous savez que bien souvent, ça joue un rôle fondamental. Il aurait été à sa place avec une équipe des Super Eagles du Nigeria.
Exactement.
Hein. Je veux dire, ils ont pris Eric Schell. Je pense qu'Eric Schell est un super agent pour le coup de l'avoir amené là.
En tout cas, il n'avait pas les mêmes références avec le Mali, Eric Schell, qu'Aliou Cissé avec le Sénégal.
Donc ça aussi compte énormément dans notre. C'est pas forcément c'est pas au mérite, malheureusement.
C'est
du réseautage. Et c'est pas le mec le plus bavard non plus, Aliou Cissé. Il n'était pas à dire je vais aller là. Il aurait peut-être. Mais c'est pas, sans doute pas sa nature.
Yoro Mangara, Aliou Cissé fait partie de ces sélectionneurs qui ont remporté l'une des trois dernières CAN. À chaque fois, c'était des sélectionneurs locaux, donc Belmadi avec l'Algérie, Faye avec la Côte d'Ivoire et entre-temps Aliou Cissé avec le Sénégal. Mais comme le note Philippe Doucet, finalement, ces sélectionneurs locaux, on leur fait confiance dans leur pays et on a plus de mal derrière à leur faire confiance dans un autre pays. Est-ce que c'est pas un peu dommage qu'on valide pas, on ne fasse pas la promotion de ces succès de sélectionneurs locaux, justement, en les voyant soit aller en Europe, soit aller dans les grandes sélections africaines ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit constat d'échec par rapport à ça ?
C'est parce que le football africain est sous-coté, c'est tout. Hervé Renard l'a dit, quand il a tout gagné en Afrique, il a eu du mal à s'imposer en Ligue 1, à Lille, à Sochaux.
On n'a pas laissé beaucoup le temps non plus.
Oui, c'est ça. Lille, hein. Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en quelqu'un.
Ils n'ont pas le tampon grand entraîneur parce qu'ils ont gagné la CAN.
Parce qu'ils viennent de l'Afrique. Et comme le football africain est sous-coté, à lui aussi c'est aujourd'hui. Quelqu'un qui fait deux finales de CAN, qui sort en huitième de finale aujourd'hui, imaginez-vous quelqu'un qui fait deux finales d'Euro et que derrière ne peut pas avoir de club, ne serait-ce qu'un club de première division en Belgique, non, il aura forcément du boulot.
Pour le dire avec d'autres mots, s'il était sud-américain ou européen, il aurait une toute autre trajectoire.
Gallardo qui gagne avec River Plate, dans la foulée,
Mais il n'est pas là.
Même les Européens qui gagnent, enfin tu l'as dit toi-même avec Hervé Renard, même les Européens qui gagnent en Afrique, est-ce qu'ils ont une grosse carrière? Ben non.
Non.
Ça, malheureusement, on en est toujours à ce constat-là.
Toujours, oui.
C'est l'Afrique. 30 ans plus tard, ne génère pas des grandes carrières.
Ouais, 30 ans plus tard, mais un autre exemple, il n'y a pas si longtemps, l'ancien sélectionneur du Nigeria qui fut finaliste de la CAN, José Pesero, il a atterri sur le banc du Zamalek, qui est un grand club africain, on ne peut pas le nier, qui s'est stabilisé au niveau des encadrants, enfin des dirigeants. Eh bien, moi, Aliou Cissé, il aurait été bien aussi là-bas. Ouais. Il aurait été très bien à gérer un effectif
international. Et vous pensez qu'on ne lui a pas proposé?
Ben je crois Yoro, pas.
Vous avez des informations
là-dessus? Pas à ma connaissance.
C'était sa seule proposition de la Libye?
Je ne sais pas. Je ne peux pas m'avancer là-dessus.
Donc
c'est le genre de poste où ça n'aurait pas été choquant. Un grand club candidat à une victoire continentale.
De la Ligue des Champions, ouais.
Ouais.
Pas sûr qu'Aliou soit candidat pour un club.
C'est pour ça que je disais que peut-être ça lui convient mieux, ce fonctionnement de sélectionneur.
Mais je crois qu'il était pour. Il voulait un club si...
Ah ouais?
Oui, je sais que oui. S'il avait un bon club, oui. Bah, pourquoi pas.
Loin de moi de remettre en cause les compétences d'Aliou Cissé. Ceci dit, on ne l'a vu à l'œuvre qu'avec le Sénégal. Donc, dans un contexte qu'il connaît parfaitement, lui qui était déjà l'un des guides de la sélection quand il était joueur, ensuite sélectionneur des équipes de jeunes. Donc, ensuite, il a pu grandir dans ce football sénégalais. Peut-il être prophète hors de son pays, Philippe Doucet?
Oui, je pense qu'il a la faculté. C'est quelqu'un qui a la faculté, qui n'est pas si courante chez les entraîneurs, de s'installer sur une longue durée. Et c'est même plutôt quelqu'un, c'est même recommandé, je pense. Pour lui, c'est pas un homme de coup rapide, je ne crois pas. Je crois qu'il est plus fait pour ça. Donc, pourquoi pas la Libye, qui effectivement, j'en parlais avec Rigo Bersong tout à l'heure que j'avais au téléphone, et il me disait ça, il me disait, finalement, c'est des défis qui peuvent nous intéresser à Liu comme moi, enfin lui, c'est la République centrafricaine, où on va avoir un mode élargi, on va pas être sous la pression médiatique énorme, même si peut-être qu'à Liu, en Libye, ça sera peut-être un peu
Libye,
différent.
C'est compliqué. Hein.
Ce sera peut-être plus différent. Mais quand même, une pression un peu moindre, parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu des résultats fantastiques, et un rôle élargi, avec un peu autour de la DTN, jusqu'à la DTN, un rôle, et qui finalement permet de s'épanouir sur une longue durée. Bon... longue durée en Afrique, on met des guillemets.
Mais une certaine marge de manœuvre. Alors Franck Simon, vous nous le racontiez hors antenne, donc maintenant on va en faire profiter nos auditeurs. Ce contexte libyen, c'est un pays forcément qui suscite des interrogations. Son histoire hors football récente est extrêmement compliquée. La situation est encore quelque peu difficile à lire sur place avec deux gouvernements. Comment ça peut se passer pour le football sur place? Vous nous disiez qu'il y a un championnat qui se tient en Libye avec un retour du public cette saison, donc les choses, en tout cas en termes de football, sont peut-être pas si défavorables pour bien travailler.
Alors, juste un petit rappel, la Libye traîne une casserole très récente. La façon dont ils ont accueilli, mais c'est pas le mot, l'équipe du Nigeria à la fin des éliminatoires de la dernière coupe pour la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle qu'ils ont perdu le match sur tapis vert. Le Nigeria a été, on les a mis dans une salle d'attente. On n'a pas su les recevoir. Ça n'a pas plu évidemment ni à la Confédération africaine ni à personne d'ailleurs. Donc ils ont eu ce truc-là. Mais à côté de ça, il y a un championnat qui a été relancé depuis déjà plusieurs saisons. C'est un championnat cette saison qui est national à 35 clubs, 4 groupes, 2 grandes régions, l'Ouest, pour schématiser, Tripoli et les régions, et l'Est, Benghazi. Voilà pour les deux parties.
Ce qui correspond un peu à la partition du pays actuellement du point de vue politique.
Trois phases de championnat, mais surtout une manne financière, la manne pétrolière qui est là, qui permet de recruter. Aujourd'hui, en Libye, on est en capacité de recruter Juan Carlos Garrido, qui a écumé toute l'Afrique du Nord comme entraîneur. Didier Gomes da Rosa, qui a quitté le Botswana pour le Harley Tripoli. Vous avez Zoran Manojlovic, qui est arrivé dans un des grands clubs du pays. Et vous avez des joueurs comme Karaba, avant-centre, doublure du Harley du Caire, qui a signé à l'Ittihad. Vous avez Mabouloulou. Attaquant angolais, meilleur buteur du championnat, un but par match. Harry Papel, qui est arrivé aussi là-bas, angolais. Vous avez...
Mais il y a des bons joueurs libyens.
Il y a des bons joueurs libyens, il y a de jeunes joueurs, parce que vous avez quand même l'obligation de jouer. Mais on a la possibilité de recruter des joueurs nord-africains, des joueurs palestiniens, des joueurs soudanais. Il y a beaucoup de soudanais, on s'est ouvert à ça. Mais ce qui est intéressant pour Aliou, c'est qu'il pourra aussi s'appuyer sur ses entraîneurs, ses nombreux entraîneurs étrangers, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs tunisiens, c'est le pays voisin, qui sont là. Il va pouvoir travailler rapidement et il va pouvoir détecter ses talents. Il y en a déjà beaucoup. Et il n'aura pas un problème pour travailler. Ce n'est pas un problème de travailler, d'avoir les moyens de le faire. En revanche, le problème, c'est celui des ambitions. Il en aura, lui, en tant que technicien, mais c'est les ambitions, on va dire, du pays et de la fédération.
Parce
et
que là il a goûté aux deux dernières Coupes du Monde, à l'UCC, j'imagine.
Mais
que,
on est mort.
L'envie d'y retourner, d'aller en Amérique.
Mais ne croyez pas,
sûr,
pas autre chose que ça, Hugo. C'est ce qu'on attend de lui.
Qu'ils y croient,
eh oui, ils veulent la Coupe du Monde. Et
ils sont deuxièmes. Hein.
Ils sont deuxièmes du groupe.
Un point du Cameroun. Groupe très serré.
Et ils vont au Cameroun, un pays qui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Aliou Cissé avec le Sénégal.
Donc il a des bons souvenirs.
Ouais, il a des bons souvenirs. Donc je pense qu'il va vouloir en créer de nouveaux. Mais ils ont une ambition mondiale et mondialiste tout à fait évidente. Ils ne sont pas au CHAN parce qu'ils n'ont pas fait les éliminatoires. Ils ne sont pas à la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils se sont ramassés. Ils ont eu un sélectionneur avant qui a bien travaillé pendant un peu plus d'un an. Vous le connaissez, c'est Mitchell, le Serbe. Après, bon, il s'est fait virer rapidement. On souhaite évidemment que ça n'arrive pas à Aliou. On lui souhaite d'avoir le temps justement de mettre en place cette politique, qui, encore une fois, qui ne concerne pas que Léa.
Et que pensent nos auditeurs de la nouvelle aventure d'Aliou Cissé en Libye ? Place au message du lundi.
C'est Djib Samb depuis que ça remonte au Sénégal. Aliou Cissé a fait un choix mitigé en prenant la sélection libyenne, même s'il va prendre un gros paquet d'argent. Mais bon, on l'attendait vers notre grand pays d'Afrique, mais... Il a choisi le Libye. C'est un gros challenge. On attendra de voir les résultats, mais on lui souhaite bon sens.
C'est Diallo depuis Mbour au Sénégal. Félicitations à Aliou Cissé qui a pris les commandes de Libye. Et bonne chance à lui. Tout va bien.
Bonsoir Radio Foot International. Luc Armel à Gongo depuis Abomey-Calavi au Bénin. Je vois que c'est une bonne destination pour Aliou Cissé qui a pris en charge l'équipe nationale de la Libye. C'est une équipe qui a déjà auparavant de bons résultats et avec l'expérience d'Aliou Cissé sur le continent, je crois qu'il fera de bon travail et qu'il va essayer de qualifier cette équipe-là pour les CAN à venir. Je lui souhaite de bonnes chances et plein de réussite.
Salut, je suis Nojitobaye Archery Théodore de N'Djamena au Tchad. Le choix d'Aliou Cissé à la tête de la Libye, pour moi, c'est un choix meilleur avec cette Libye qui a besoin d'un entraîneur motivateur comme Cissé. C'est un pari gagnant et espérons qu'il aura du succès, il aura de la victoire et assez même de victoire pour la Libye qui sera entraînée prochainement par Aliou Cissé.
Les auditeurs de Radio Foot ont du talent et des avis. Vous pouvez vous exprimer via une note vocale sur WhatsApp. Le numéro de téléphone qui s'affiche chaque lundi donc sur la page Facebook de Radio Foot International qui continue ce lundi.
Atalanta in vantaggio 0-1. Zappa Costa, terzo gol dell'Atalanta 0-3.
Lokman in area, Lokman palla sul destro, parte di tiro, deviazione, rete. Poker firmato dall'Atalanta con Lokman, c'è stata anche la deviazione di un giocatore della Juventus.
Il posticipo della 28ª giornata di Serie A. Vince 0-4 la squadra di Giampiero Gasperini.
Festival de jazz sur le terrain de la Juventus Turin et Radio Foot seront donc au chevet d'une vieille dame largement battue par une déesse. La Juventus Turin humiliée à la maison par l'Atalanta Bergame, la DA, c'est ainsi qu'on la surnomme, 4-0, à l'occasion de la 28e journée de Serie A. On sent le maestro Salerno un petit peu chafouin par après ce résultat, d'où la musique, c'est doux amer dans son mix.
C'est la musique d'ascenseur pour l'échafaud, non?
Exactement.
C'est limite, pas le moins.
Ça pourrait.
C'est bien vu.
Tout va très vite dans le football, hein. Il y a quelques semaines à peine, la nouvelle Juve, entre guillemets, façonnée par Thiago Motta sur le banc de touche, semblait prendre forme avec en point d'orgue un succès contre l'Inter Milan. C'était il y a pratiquement un mois, jour pour jour. Mais depuis ce coup d'éclat, ça ne va plus très bien du côté de Turin. 5 matchs pour 2 victoires et surtout 3 défaites. Parmi ces revers, la déroute d'hier donc, mais aussi une élimination qui fait tache en 16e de finale de la Ligue des Champions. À Eindhoven, pour l'instant, il est possible de la retrouver, cette Ligue des Champions, la saison prochaine, puisque la Juve, alors, joue par les quatrièmes. Attention tout de même au retour des équipes qui suivent. La Lazio à 2 points, avec un match en moins, par exemple. Je vais mettre les pieds dans le plat. Yoro Mangara, les jours de Thiago Motta sont-ils comptés dans un club qui ne connaît que le succès et la victoire, qui ne reconnaît que le succès et la victoire?
Je crois que financièrement, ça va être très compliqué qu'il se fasse virer avant la fin de la saison. Après, il a fait une très belle saison avec Bologne. Il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Hier, ils ont fait 20 bonnes minutes, voire 25. Après, je ne sais pas, tout s'est liquéfié. J'ai plus compris le jeu de Thiago Motta, non plus la défense. Parce que pour moi, une équipe qui veut gagner la Serie A ne doit pas pouvoir encaisser autant de buts. Et souvent, c'était
facile. C'est une première historique depuis très longtemps. C'est une première
défaite.
Voilà. Non mais à domicile, ça remonte à plus longtemps. La Juve qui prend 4 buts,
ça fait
aux années 60 à la maison.
C'est ça.
Pour une telle défaite.
Ils ont pris 4-0 et puis je crois aussi que cette Juve, techniquement, moi je crois pas qu'elle ait des joueurs qui peuvent remporter cette Serie A. Ils sont revenus à 6 points, tout le monde s'attendait à ce que la Juve puisse faire mieux, mais je crois que l'ADA et l'Inter voire le Napoli sont un cran au-dessus.
Alors je vous ai parlé de Thiago Motta, on parle de Thiago Motta et on écoute aussi Thiago Motta dans Radio Foot.
C'était
un match compliqué face à une équipe qui joue très bien avec des caractéristiques très particulières. On a pourtant bien démarré la rencontre, mais le pénalty concédé nous a beaucoup affectés. Je ne veux pas critiquer l'arbitrage. Nous sommes responsables de la défaite et je pense que notre réaction, après avoir encaissé le premier but, n'a pas été bonne. Bergame a mérité sa victoire. Je reconnais la supériorité de l'adversaire sur ce match. À présent, nous devons nous relever, trouver de la confiance et nous tourner vers la prochaine échéance face à la Fiorentina.
Perché abbiamo una partita importante contro la Fiorentina e dobbiamo ricominciare.
Mais en sera-t-il de cette prochaine échéance, Thiago Motta, Franck Simon?
On peut imaginer que oui, pour des raisons qui ont déjà été évoquées par Euro. Non, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'effectivement, ils ont du monde derrière eux. C'était l'occasion pour eux là de revenir à hauteur de l'Atalanta, en vérité. S'ils s'imposaient, c'était égalité. Là, l'Atalanta peut se projeter sur la prochaine journée avec la réception de l'Inter et pourquoi pas passer devant en tout cas. Alors que pour la Juve, le danger maintenant vient de derrière. Ils peuvent effectivement se liquéfier. On ne sent pas dans les propos quand même de Thiago Motta beaucoup de sérénité. Hein. Il dit voilà, d'abord la langue de bois, classique, et puis ensuite de dire bah ouais, le pénalty, nanana, puis maintenant il faut qu'on se relance, on n'est pas bien. Mais ça fait un moment qu'ils ne sont pas bien en fait. Hein. Et même quand ils avaient battu l'Inter,
c'était pas... Ils ont eu un coup de mieux, ils ont eu un moment de mieux au début de l'année.
Deux matchs,
ouais.
Pas plus.
Alors c'est pas énorme. Hein,
vous savez, la culture de l'instant, c'est très important pour moi.
Ouais, mais sauf ça ressemble pas à cette culture que vous décriviez d'une équipe qui avait l'habitude tout écraser. Ils ont pas tout écrasé hein, toutes ces dernières années.
Ça fait déjà plusieurs années que ça va mal du côté de la Juventus.
Ils mangent leur pain noir en ce moment et très honnêtement, c'est pas exactement ce qu'on attendait. Je pense qu'ils sont plombés mentalement, moralement, ils sont plombés. Ils sont pas techniquement super à l'aise. Hein, y a des joueurs intéressants, ils sont pas super bons. Éliminés de la Ligue des Champions, donc là en fait ils peuvent tout perdre là, en quelques semaines, et ils sont bien partis pour se casser la figure.
Avant Thiago Motta c'était Allegri, donc c'était tout un cycle hein, qui s'achevait, alors il y avait eu des saisons un peu difficiles, mais Allegri il avait beaucoup gagné, Thiago Motta il devait relancer cette Juve, lui-même devait lancer quelque part sa carrière d'entraîneur au très haut niveau, c'est son premier grand club pour lui qui a été un très grand joueur évidemment du côté du PSG, de la sélection italienne ou de l'Inter Milan entre autres, Philippe Doucet, est-ce que là il n'est pas en train de perdre beaucoup de crédit.
Oui, forcément, la nature des grands clubs est impitoyable. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans un grand club, vous êtes immédiatement dans un espèce de cyclone qui fait que si les résultats ne sont pas là, vous êtes montré du doigt et tout Thiago Motta, tout Pirlo que vous, ou Allegri que vous pouvez être, vous êtes immédiatement montré du doigt. Mais je pense que cette Juve, elle est difficile à relancer. Pirlo avait échoué, et ils avaient ramené Allegri... qui n'a pas du tout vécu les années d'avant quand il est revenu.
Oui, la deuxième phase Allegri n'a pas été bonne.
La deuxième phase n'a pas été bonne non plus. Motta arrive. J'ai tendance à penser que Thiago Motta peut correspondre à une recherche de
stylistique
puis de long terme.
Oui.
D'une recherche de long terme. Disons, dans les grands clubs, parlons de moyen terme, disons.
Mais c'est
on peut tolérer une saison un peu moyenne, il me semble.
Mais
parce que sinon, à ce moment-là, il ne fallait pas prendre Thiago Motta. Mais... Si c'est pour le virer là maintenant, il ne fallait pas prendre Thiago Motta. Il fallait prendre un entraîneur à Ranieri. Il fallait prendre des gens qui sont installés.
Parce que c'est un grand club qui a dans sa culture, dans son ADN, vraiment une espèce de victoire à tout prix. Qui ne recherche pas l'esthétique ou le très long terme.
Justement, je ne crois pas que Thiago Motta soit l'entraîneur idéal pour cette Juve. Parce que la Juve gagne sans pour autant jouer un jeu chatoyant. Alors que Thiago Motta, c'est l'école barcelonaise, il est brésilien de naissance, il aime ce beau jeu, il aime la possession, on a vu
c'est aussi l'Inter de Mourinho.
Il s'est converti au pragmatisme là parce que peut-être il dispose de cet effectif-là.
Mais l'année dernière, son équipe, Bologne, avait le plus beau jeu de la Serie A. Mmh. Mais aujourd'hui, pour répéter ce que Thiago faisait avec Bologne dans cette équipe de la Juve, sans les joueurs techniques qu'il avait avec Bologne, ça va être très compliqué.
Franck Simon.
Ouais, Hugo, si vous me le permettez aussi,
c'est-à-dire de
ne pas minorer la perf de l'Atalanta.
Bien sûr.
C'est une équipe qui ne perd plus en Serie A depuis déjà un petit
à
moment.
À force de les minorer, ils ne sont pas loin du titre.
C'est ça.
Alors justement.
C'est là, on est en train de dire, la Juve, mais ils ont coulé collectivement. Ils ont coulé collectivement.
Justement.
Et,
là,
et on est en train de dire, c'est leur faute, mais c'est surtout de la faute de cet adversaire.
Alors justement, l'Atalanta 3e, 6 longueurs devant la Juve, désormais. Naples qui est à 2 points devant, l'Atalanta est 3e, Naples 2e, 2 points devant, l'Inter leader 3 longueurs devant. À quand le titre pour Lookman et ses coéquipiers? On va répondre à cette question,
peut-être,
mais avant,
peut-être dimanche prochain,
si on entendait, si on écoutait Gasperini, l'entraîneur qui, lui pour le coup, a vraiment façonné l'ADA, l'Atalanta Bergame.
Nous avons toujours dit que rien n'était impossible pour nous. Si on y croit de toutes nos forces, alors tout devient possible. On sait bien que Naples et l'Inter sont des équipes extrêmement fortes qui gardent un rythme très élevé dans ce championnat. Et c'est justement l'Inter qu'on doit affronter dimanche soir. Une équipe contre laquelle nous restons sur 7 défaites d'affilée. Espérons que cette victoire à Turin est un signal. En cette période de la saison, l'Atalanta n'a jamais plus que 3 points d'écart avec la Juve et il ne nous est jamais arrivé d'être en course pour le titre avant la 30e journée. Mais cela fait très plaisir.
Gasperini, ambitieux avec son Atalanta, il a déjà fait beaucoup. Quart de finale de Ligue des Champions il y a quelques années, on s'en souvient, contre le PSG. La victoire en Ligue Europa la saison passée.
Face au Bayern Leverkusen.
Et un jeu qui impressionne saison après saison, avec des anciens rebuts de la Juve, même Cuadrado qui est titulaire. L'Atalanta is the new Juve et la nouvelle Juve finalement.
Ça joue bien.
Ça joue mieux.
En mieux. Ça joue bien. Et les gens, ils oublient que Gasperini est le maître à penser de Thiago Motta. Quand ils se sont connus au Genoa, c'est lui qui l'a façonné dans ce jeu où on presse. Il ramène le football de Giroud, par exemple, l'individuel sur le tour terrain, avec ce marquage individuel qui a tendance à disparaître. Moi, c'est un entraîneur que j'aime parce que sa philosophie marche. Et chaque année, ils sont pillés, mais il arrive quand même, il a le nez creux pour pouvoir trouver des joueurs pour remplacer ceux qui partent. Et souvent, ceux qui viennent ne sont pas moins bons que ceux qui partent.
Parce qu'il y a un système qui semble permettre aux individualités de s'exprimer sans forcément que ce soit les meilleurs joueurs du monde intrinsèquement. Mais il y a un système, il y a quelque chose, il y a tout ce que la Juve cherche et ne trouve pas, non ?
Il y a quand même de sacrés joueurs. On ne va pas tous les énumérer, on ne va pas faire un catalogue des talents.
Retegui, Lookman, c'est peut-être les plus en vue.
On a toujours le Belge, De Ketelaere, qui est là.
Oui.
Charles De Ketelaere. On a qui ? On a Doroun aussi, le Néerlandais.
Ils ont perdu Cop Miners, vous avez vu.
Mais c'est vrai qu'ils ont perdu, oui.
Ouais,
Alors, ça pour la suite, c'est embêtant.
Surtout de toute façon, ils sont appelés à perdre leurs joueurs.
C'est ça, c'est ça qu'ils font chaque année.
Lookman partira cette année, certainement. Ça fait partie du truc. Par contre,
c'est l'éternel recommencement.
Par contre, c'est quand même une durabilité extraordinaire. Parce que je crois que ça fait 4 des 5 dernières années dans le top 5 italien.
Mais alors, à quand l'étape du dessus?
C'est pour ça que
un peu comme Naples l'année dernière.
S'il nous faisait une Leicester, s'il nous faisait une Leicester, ce que je compare, ce qui est comparable, c'est-à-dire.
Gagner un titre qui n'est pas pour eux.
Oui, historiquement, voilà, c'est pas pour eux, etc. Je pense qu'ils le mériteraient encore plus que Leicester. Ce serait encore moins extraordinaire parce que ça fait 5 ans qu'ils sont au plus haut niveau.
Et cette saison, ça peut être la bonne.
Ils sont pas très très loin. Ils ont dû finir une année, ils ont dû finir à 3 points de la Juve, il me semble. 3-4 points.
Mais là, c'est l'année où ils jouent le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions.
Mais l'Inter,
bon, il y a deux équipes devant. Le problème, c'est qu'il y a deux équipes devant.
Ils ont peut-être une force de frappe supérieure et des moyens supérieurs. Naples et l'Inter. Bon.
C'est un match à suivre, en tout cas dimanche.
Le match contre l'Inter de l'Atalanta.
C'est la troisième fois, je crois, qu'ils s'affrontent cette saison, parce qu'ils ont perdu récemment la Supercoupe contre l'Inter. En début de championnat, en août, ils avaient pris il y avait une gifle, là. Hein.
Bon, et puis c'est dommage, Kusunu, le défenseur ivoirien qui est blessé, mais qui pourrait participer, parce qu'il était titulaire en début de saison, qui pourrait participer au bon moment.
Peut-être une surprise, bonne surprise côté jeu avec l'Atalante, peut-être dimanche prochain.
Eh bien, écoutez, on va suivre ça. Et de toute manière, s'il y a une surprise, on viendra la commenter dans Radio Foot International. C'est Liawa des Mounages. On se retrouve dans quelques minutes de l'autre côté de cette douceur musicale sélectionnée par les programmateurs musique de RFI. On parlera Ligue 1, cette bonne vieille Ligue 1. Guadeloupéenne, Céliawa, Démounage, c'est dans Radio Foot International sur RFI avec Yoro Mangara, Franck Simon et Philippe Toussé.
Oh, le ballon récupéré, allez, tout de suite, allez. Oui,
allez, le face à face, Ryan,
oui,
c'est parti, tu ouvres le score. Rommel, encore un remplaçant décisif pour l'OL.
Un espèce de Nuama en 1 contre 1 face à Dante. Pied gauche, la frappe de Nuama.
Ouais, ouais, mais qu'il est beau. Oh, mais qu'il est beau, ton but, Dernès. Il est somptueux. Ce ballon roulé dans la lucarne. Et ça fait 2-0 pour l'OL.
L'OL a fait tomber Nice pour la première fois de la saison à domicile. Les Niçois qui semblaient injouables avec 6 victoires consécutives sur leur terrain. Oui, mais Ryan Cherki et Ernest Nuama sont passés par là.
Si votre club va mal, une solution s'offre à vous. Vous faites suspendre votre entraîneur par les instances et tout redémarre. Celui de l'OL, Paulo Fonseca, a pris cher, comme on dit, après avoir collé sa tête sur celle d'un arbitre la semaine passée. Plusieurs mois de punition, punition effective, si je puis dire, depuis hier, face à Nice. Il était en tribune, mais son équipe n'a pas souffert pour autant. Bien au contraire, succès, on l'a entendu, 2-0 pour Lyon, le club notamment du Sénégalais Moussa Niakhiti.
C'est un peu ça, mais c'est pas forcément volontaire. Si on pouvait accélérer dès les premières minutes, on le ferait. Mais en face, à chaque fois, on a des belles équipes. Hein. Nice, je crois, c'était invaincu à domicile. Donc on a plutôt bien géré défensivement en première, mais on était venu pour gagner parce qu'on savait qu'en gagnant, on faisait une belle opération. On savait qu'on recollait à quelques points devant et on sait que la semaine prochaine, il y a des concurrents directs qui ont des très gros matchs. Donc c'est une belle opération, magnifique opération.
Une magnifique opération et un bel accueil pour Paulo Fonseca en tribune, chaleureusement salué par son homologue niçois Franck Hez. Que faisait-il là, Franck Hez? Bien lui aussi était suspendu, un match intégralement coaché depuis les tribunes.
Ça fait une jolie photo hein, dans le quotidien du sport.
Ça fait une très jolie photo dans l'équipe, un match coaché en tribune, intégralement coaché en tribune, c'est pas banal de mémoire, ça vous rappelle quelque chose?
Les deux à la fois, oui, non, j'ai pas en tête. Mais en tout cas, c'est un très vieux débat. On s'est toujours demandé ce que voyaient les entraîneurs aussi bas. Alors, certes, on sent le pouls du match quand on est au bord du terrain, et on sent la vitesse, on sent les impacts, on sent un certain nombre de choses. Mais tactiquement, c'est toujours difficile de voir d'en bas. Et donc, on s'est toujours posé cette vieille question en se disant, finalement, est-ce que ce serait pas bien de temps en temps de voir le match d'en haut? Le rugby le fait. Les coachs de rugby sont dans les tribunes avec tous les outils, les datas, la vidéo.
Ils ne sont pas là en train de crier sur le banc de touche.
Ils n'hurlent pas sur le banc de touche. Ils ne conseillent pas le joueur de jouer la touche un peu à droite, un peu à gauche, ou comme ci ou comme ça. Ils ne s'occupent pas de tous ces détails. Et après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le foot ne s'y est pas mis. J'ai entendu plusieurs entraîneurs, quand on en parle, me dire « bah oui, j'y ai pensé, mais finalement, je veux être avec mes joueurs ». Voilà.
Parfois, il y a des membres du staff, et même peut-être à chaque fois d'ailleurs, qui vont assister au match en tribune, donc il y a de la communication.
Là, c'est systématique.
J'imagine que dans le cadre d'une suspension, il ne devrait pas y avoir de communication.
Est-ce qu'il n'y en a pas? Je ne sais pas. Les analystes vidéo, ils regardent les matchs souvent perchés.
Les tribunes sont investies désormais par les staffs.
Et Lucien Riquet à Poissy, c'est ce qu'il fait. Quand il entraîne le Paris Saint-Germain, il est là-haut le plus souvent parce qu'il se dit qu'il a beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'enseignements à tirer quand on est perché que quand on est sur le banc ou à côté de ses joueurs. Après, pourquoi ils ne le font pas en match, comme l'a dit Philippe, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu un entraîneur vouloir rester là-haut, sauf s'il est suspendu comme ce fut le cas hier.
Alors Fonseca, donc, il est suspendu depuis le milieu de semaine dernière. Il a gagné hier, il a également signé une victoire en Coupe d'Europe à Bucarest il y a quelques jours. Alors là, il n'était pas suspendu de banc de touche, mais on a l'impression, en tout cas, que sa lourde sanction, suspension de plusieurs mois, donc pour intimidation face à un arbitre de Ligue 1, ne l'a pas affecté tant que ça. Son club n'a pas été plus affecté que ça, Franck Simon. D'ailleurs, hier, tout un symbole, c'est deux rentrants, donc de conséquences d'un coaching qu'il a probablement à un moment donné, sur lequel il a eu sa patte à un moment donné, qui ont fait la différence.
Vous avez vérifié les écoutes pour savoir s'il avait passé un message?
Peut-être qu'il y a un message codé, un langage des signes, que sais-je. Bon, en tout cas, on a l'impression que ça n'a pas affecté ni Lyon ni Fonseca, cet incident, et même plus que ça.
Ça l'a forcément affecté. Toutes les conséquences de cet acte, de cette attitude, ça a forcément affecté. Jusqu'à un moment donné, on parlait de l'extension d'une sanction au domaine européen, si j'ai bien suivi. Il est au-dessus. Il n'est pas là où il aimerait être, où il voudrait être.
Il y a quand même un handicap.
Mais bien sûr,
je crois pas.
Tu ne penses pas?
Non.
Pourquoi ?
Il avait envie d'aller en tribune,
Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je veux dire, avec la technologie aujourd'hui, on peut entraîner à partir de son lit, même quand on est dans son lit.
Enfin, tu ne fais pas ce métier-là. Ou alors tu fais du foot manager, c'est autre chose.
Franchement.
Mais lui, je pense qu'entraîneur, il a envie d'être...
Hier, vous avez vu l'armada qu'il avait devant lui, il y avait une machine, il a tout. C'est-à-dire, il peut communiquer avec les adjoints. Tu as tout. En fait, aujourd'hui, avec la technologie, on peut entraîner de son lit d'hôpital.
Non, mais c'est pas l'essence même. Tu reconnais
oui,
pas que c'est pas l'essence même.
Oui, je suis d'accord. Parce qu'après, ils vont te dire oui, le gazon me manque, etc.
C'est la réalité, je pense, pour lui. Mais encore une fois, il est coupable de ce qu'on a tous vu, hein, et en direct. Donc, voilà. Non, effectivement, après, t'as cet aspect technologique qui lui permet, mais comme à d'autres. Mais moi, j'aimerais beaucoup, effectivement, ce que tu évoquais, Philippe. J'aimerais vraiment que ça se mette en place à un moment. Par rapport au rugby, ça serait...
Là, pour le coup...
Un coaching institutionnalisé, un coaching
Là, pour le coup, s'il veut perdurer dans ce job, Fonseca, il va falloir qu'il la joue comme ça et on va voir si ça...
Parce que là, pour l'instant, là où on se parle, avant novembre, il ne revoit pas le banc de touche.
Théoriquement, non.
Mais on en parle aussi du rôle de son adjoint.
Il ne peut même pas aller au vestiaire. Il ne peut même pas aller au vestiaire avant match et après match.
Mais alors...
À la mi-temps, je veux dire.
Simplement, ce qui est... Quand je repense à la collague avec Franck Haise, finalement, on a l'impression que, je ne vais pas dire que tout va bien autour de Fonseca, mais il y a quand même un grand soutien de son club. Il y a l'air d'avoir une sorte de soutien un peu corporatiste à part de Franck Haise.
En France, nous sommes des magnifiques moralistes, mais quand tout d'un coup, ce n'est plus notre intérêt, alors plus du tout. Il n'y a plus du tout de morale. J'étais très étonné par les commentaires sur...
Comboiré
Par exemple. J'étais très étonné par
Comboiré, entraîneur de Nantes, qui a également pris sa défense, c'est ça, la défense de Fonseca.
Oui, alors bon... Comboiré, il l'a fait d'une manière un peu corporatiste, mais pas malhabile, parce qu'il a dit « Non, mais en fait, vous avez suspendu Benatia, Longoria, tout ça pour des mois, etc. Mais eux, ça n'a aucune incidence sur leur
parce
métier. »
Parce que ce sont des dirigeants
juste,
de l'OM.
Ce qui est tout à fait juste. Ça n'a aucune incidence sur leur métier. Ils n'ont rien à faire sur le terrain, théoriquement. Ils y descendent, mais ils ont tort. Mm. Et ils n'ont rien à faire sur le terrain. Alors qu'effectivement, un entraîneur, lui, il est gêné dans son métier. Mais c'est vrai que Comboiré aurait pu ajouter, bon, cela dit, il a fait une grosse erreur et c'est normal qu'il paye. Mais c'est vrai que les entraîneurs ont tendance à se dire, bah oui, bah...
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu une complaisance ? C'est-à-dire que les polémiques se multiplient, les suspensions se multiplient par rapport aux attitudes des uns des autres, des responsables face à l'arbitrage, et on a l'impression que finalement, bon... Il y a des lourdes suspensions, mais elles ne sont pas si handicapantes. Est-ce qu'il y a une forme de complaisance dans le football français ?
Ah bah oui.
Oui ?
Et moi, je vous dis, aujourd'hui, quand Lyon accueille, si Fonseca, il veut aller au vestiaire, il peut. Moi, je vous dis. Il y a plusieurs manières.
Vous êtes responsable de vos propos.
Ben oui.
Il
ne va pas le faire s'il veut. Mais s'il veut...
Il connaît les labyrinthes du stade. Mais après, puisqu'on parle de morale et on parle de moralisation et de moralisateur, moi j'aimerais bien qu'on étende je le fais pas sur le plan de la boutade, hein, Philippe. Peut-être que tu vois où je veux en venir. On devrait étendre ça aussi aux journalistes qui ont aussi de sacrées attitudes en tribune. C'est une des raisons pour lesquelles je vais de moins en moins au stade. Parce que j'y vois des supporters qui insultent là aussi des arbitres, mais ils ne sont pas punis. Puis ils écrivent parfois de sacrées conneries. Et ils en disent aussi. Donc, on ne le fera pas, c'est notre corporation.
C'est l'écosystème du football qui devrait faire son...
Nous, on est dans notre rôle aussi de critiquer, de dire ce qui ne va pas, tout ça. Mais regardons aussi de notre côté. Si on veut laver plus blanc, c'est tout le système peut-être qu'il faut revoir. Mais j'aimerais bien ce que tu as dit, Philippe. J'aime beaucoup cette idée du coach de truc rugby. J'aime bien.
Oui, alors ça, c'est possible, j'imagine, en Ligue 1.
Mais ça l'est de toute façon. Ouais.
Si vous descendez dans les divisions, c'est un petit peu comme la barre.
Mais ils s'en passent aussi de belles dans les petites divisions. Hein.
Je sais. Mais vous aurez moins de tribunes dans lesquelles vous asseoir pour coacher avec les technologies les plus nouvelles. Bref, on en reste un petit peu là sur les coachs en tribune. Juste un point sur les 5 dernières minutes sur la course à l'Europe en Ligue 1 à moins de 10 journées de la fin. Paris donc loin devant. Le plus important, c'est la Ligue des Champions. Je vous donne rendez-vous demain soir sur RFI. Le match retour contre Liverpool. Marseille, ce week-end, deuxième, a perdu à domicile contre Lens. Nice, troisième, a donc perdu à la maison contre Lyon. Monaco, quatrième, a fait nul à Toulouse. Et derrière, les poursuivants, et ça a été un peu mieux. Lille, cinquième, a gagné.
Le
Lyon
Racing
a donc gagné. Strasbourg a gagné. On a 4 points d'écart seulement entre Strasbourg 7e et Monaco 4e. Donc cette course pour l'Europe, les 4 premiers en Ligue des Champions avec des tours de qualification pour le 4e, ça annonce passionnante sur cette fin de saison en France.
Mais il n'y a que ça à regarder aujourd'hui sur le calendrier.
Tu as raison.
C'est déjà pas mal.
C'est mieux que rien, ouais.
Oui, on lutte pas pour le titre.
Mais alors, quand on voit les dynamiques, les bonnes dynamiques des poursuivants, les mauvaises dynamiques de ceux qui y sont déjà, on voit ça comment? Ça va beaucoup bouger?
Ouais, il reste 8 matchs.
Ouais.
8 ou 9?
9.
Ouais. 9. Ah, ça 9, ça encore... peut, c'est encore long, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et puis, on voit bien, à travers les résultats que vous venez de citer, on voit bien qu'il n'y a pas d'équipe... qui se détache réellement, même si l'OM fait plutôt un parcours correct.
On pensait Marseille assez installé à la deuxième place.
Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir l'OM un peu plus beau qu'il n'est, parce qu'il y a des beaux noms, il y a des jolis joueurs dans cet effectif. Mais bon, moi j'ai commenté le match contre Lens, honnêtement c'était atone, c'était pas bien intéressant, et j'ai presque pas été totalement surpris que Lens, contrairement complètement contre le cours du jeu, il est vrai, oui. mais finissent par l'emporter. Puis, je veux dire, je pense qu'aucune de ces équipes que vous venez de citer, il n'y en a aucune où on peut se dire, bon, eux, ils ont quand même la marge qui leur permet d'être sûrs dans les trois premiers, c'est sûr. Non, aucune, même pas l'OM.
Franck Simon.
Ce que j'y ai vu d'intéressant, en tout cas pour cette journée, c'est aussi les équipes qui sont européennes, qui sont sur le front européen, qui ont montré de belles choses.
Donc Lyon,
Lille
et PSG.
Donc ça me donne envie de croire qu'il y aura peut-être de bonnes nouvelles pour le foot français.
En 2027.
En 2027. T'es pas gentil.
Vous voyez des équipes qui sont pas au bord du précipice, mais sur le point de perdre gros, et d'autres capables de faire des gros coups.
Marseille déjà, ça craint, parce que dimanche, ils vont jouer le classique ici au Parc face au PSG. Imaginez qu'ils perdent.
Les poursuivants, on peut l'imaginer.
On peut, ouais.
C'est déjà arrivé ces derniers temps. Je me replonger.
Donc voilà, et que les poursuivants derrière gagnent, ça peut être... Voilà,
palpitant. Et puis tout en bas, on peut aussi se dire qu'il y a deux grands clubs historiques du football français qui peuvent peut-être terminer à l'échelon inférieur. Du Saint-Et, du Stade Reims. De Reims. C'est pas bien. C'est
très, les grands noms.
Très, très mal embarqué.
Les grands noms du passé.
Mais bon, enfin,
lointain passé.
Sauf qu'ils ils sont revenus dans le cycle positif. Et puis là...
Et il y a un club, on n'en parle pas beaucoup, c'est le Racing Club de Strasbourg. Ils sont en train de faire un excellent championnat.
C'est peut-être eux l'équipe...
surprise de la saison.
L'équipe un peu frisson, comme on dit, celle qui va venir coiffer au poteau, des plus installés.
Ils ont été frissons en première partie de championnat, où leur match était très spectaculaire. Voire parfois, d'ailleurs, ça partait dans un mauvais sens. Mais bon, ils prenaient pas mal de buts. Là c'est différent. Ils sont extrêmement normalisés. Ils prennent plus un but. Ils gagnent 1-0. Ils gagnent 1-0 tous les matchs. Ils prennent plus un but. Donc c'est peut-être moins spectaculaire, moins frisson que vous le souhaitez, mais en tout cas il y a de la qualité.
Les supporters prennent ce
Chelsea
genre
derrière,
de frisson, oui. ça peut aider. Donc un petit, on va pas un billet, on va pas encourager les paris, c'est pas le genre de la maison, mais un petit billet sur Strasbourg de la part de Yoro Mangara. Bon, on verra ça.
Oui, parce que déjà le capitaine il est sénégalais, Habib
Diarra. J'espère
qu'il va se remettre d'ailleurs.
Et Kader Mangane dans le staff.
Ah oui, c'est le directeur sportif.
Ça c'est important. Merci beaucoup Yoro Mangara, merci beaucoup Franck Simon, Philippe Doucet, merci beaucoup Pierre-Olivier Guérin et Laurent Salerno à la réalisation de Radio Foot. Je vous rappelle que demain, non seulement Annie Gasnier, l'atelier revient, donc ça c'est un événement, autre événement évidemment. La manche retour, PSG-Liverpool, plutôt Liverpool-PSG en Ligue des Champions, le 8e de finale retour et Radio Foot qui sera dans le coup, et ça s'annonce pas mal, tout ça. Donc soyez à l'écoute de la Radio du Monde. Très bonne soirée.